Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans les archives du rire, on a ouvert le tiroir François Silvan. Un tiroir où les interviews sont nombreuses. C'est vrai qu'on l'a rencontré à de nombreuses occasions. Il faut rappeler aussi que ce comédien, à la base, a profité d'une petite période de calme pour créer son premier one-man show « Je veux plus de crème dans les mille feuilles » en référence à un tag inscrit sur un mur tout près du théâtre à Neuchâtel. Ensuite, il y a eu d'autres spectacles. Un Suisse peut en cacher une autre, François Silvan et ses dames, trop dit-elle. Silvan et ses messieurs, mais taisez-vous, la fête de la vigneronne, voici Noël.com.
Les archives du rire.
Le souvenir de François Silvan, c'est maintenant, et ça commence avec un extrait d'une interview réalisée le samedi 26 avril 1986. François Silvan était à la salle Dixie, au Locle, lors d'un festival d'humour, et il présentait le spectacle qu'il venait de créer, « Je veux plus de crème dans les mille feuilles ».
Ce titre, je l'ai trouvé d'ailleurs à Neuchâtel, et... Comme je ne savais pas quel titre donner quand j'ai créé ça, j'ai pensé à ce titre-là que j'avais vu sur un mur. Et plus de mille feuilles, c'est plus d'humour, plus d'amour, plus de justice, tout ce qu'on veut. On met là ce qu'on veut à la place de la crème.
Jeu de main, jeu de vilain. Quand j'étais petit, on me disait jeu de vilain. Maman, les citrons, ils ont des pattes. Non ? Alors j'ai dû presser un poussin. Jeu de main, jeu de vilain. Mais si demain, il n'y avait plus de main. Hein ? Donnez-moi la main, mademoiselle. Tintin. Plus de main dans la main, deux mains dans les cheveux, deux doigts dans le nez. Plus de main de ma sœur. Plus de main de fer, plus de gants de velours, plus de main, plus de pied de nez.
Ce spectacle est né d'une manière assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Ah oui, ça est né d'une manière intéressante. C'est quand j'avais une période de creux, comme ça peut arriver dans tous les métiers, mais aussi chez le comédien. Alors j'avais un trou de 2 mois entre 2 spectacles. Et alors j'ai été au chômage. Et puis je me suis dit non, plus jamais je vais aller timbre au chômage. Il faut que je fasse quelque chose. Alors je me suis mis à écrire. Et mais des choses d'abord sérieuses. Puis après ça a dévié sur des improvisations, sur des choses absurdes, sur des situations. Ce que vous avez vu ce soir. Mais sans d'abord avoir l'idée de faire un spectacle. C'est-à-dire c'était uniquement l'écriture qui m'intéressait. Et puis voilà. Et puis après j'ai eu l'idée de faire quelque chose seul. Puis c'est parti comme ça.
On pourra plus pisser debout. Alors, on a l'air con avec nos moignons. Si demain il n'y avait plus de main, plus de main d'œuf, plus de manucure, plus de main, plus de pédicure. Mais si demain il n'y avait plus de main, plus de droguer. Essayez de vous rouler un pétard avec 2 moignons. Si demain il n'y avait plus de main, plus de gâchette, de main criminelle, de main dans le sac. Oh les moignons, c'est dans le dent. C'est pas possible. Non, nos petites menottes, plus de prisonniers, plus de prison, plus de levé le moignon droit et dites je le jure. Hein. Plus de main, plus de magistrature, plus de guerre, plus d'holocauste, pas de main, pas de Heil Hitler, plus de fanatiques, presse-bouton, plus de main, plus de rose au poing. Mais si demain il n'y avait plus de main, de main jointe, de doigt de Dieu, de main tendue, de bague au doigt, monsieur,
j'ai l'honneur de vous demander le moignon de votre fille.
Les débuts de François Silvan dans le théâtre, c'est le cours de diction à l'école Club Migros.
Exactement, en 68, et j'étais en apprentissage, et puis je prenais un cours, parce que c'est venu aussi tout par hasard ça, c'est-à-dire je prenais des cours à la Migros, des cours de guitare, et j'en ai pris 6 mois, après j'en ai eu ras-le-bol, on avait un professeur de guitare espagnole qui nous jouait des concertos, des trucs dont je pouvais pas suivre, et puis en plus j'étais apprenti, ça, j'avais pas une guitare super sophistiquée, ça, c'était une simple guitare... à 79-90, et alors j'avais une corde qui sautait tous les 5 minutes. Alors j'ai arrêté après 6 mois, et j'ai changé de cours, mais j'aurais pu prendre aussi bien un cours de tricot qu'un cours d'alpinisme, n'importe quoi. Et j'ai vu sur la liste qu'il y avait diction théâtre. Je suis rentré là-dedans, j'ai frappé à cette porte, et puis ça m'a plu, puis voilà.
Un extrait du premier 45 tours de François Silvan, enregistré en public au théâtre Boulimi à Lausanne en 1984.
Ha ha ha! Alors ça va. L'opération, ça a été. L'opération, ça a été. Je comprends pas ce que tu dis avec ce tuyau dans la bouche. 8h30 d'opération. Ah, c'est moins long que je pensais. Presque aussi longtemps que madame Paris. Je pue. Oh, elle est toute petite, cette cicatrice. Ah, elle m'a juste dans le dos. Autrement, ah, ils ont pu tout enlever. Ils ont aussi enlevé la matrice. Ah, madame Paris aussi m'avait dit de ne pas la laisser. Mais t'as bien fait de faire tout en même temps. C'est ce que j'avais dit à madame Paris. Qu'est-ce que vous voulez garder cette matrice à votre âge? Elle ne vous sert plus à rien. La tienne est aussi cancéreuse ou bien? Oui, alors t'as bien fait de ne pas la laisser. Autrement, ça va. Et donc, je pense que c'était mieux pour te faire opérer des seins. Tuyau dans le nez, ça te dérange pas trop. Oh, mais ce qu'elle est jolie, ta soeur. Oh, mais t'es une jolie soeur. Oh, mais une belle vue. Ah, tu l'as pas encore vue. Oh, c'est très joli. Tu sais, madame Paris, puis sa chambre, elle a un joli coup d'œil sur le cimetière et les arbres.
Bon, disons que c'est un tube qui a bien contribué à la renommée, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'était un tube tout de suite. Et puis, oui, c'est vrai que moi, j'étais le premier surpris. D'ailleurs, c'est un sketch comme ça que j'avais fait un après-midi. Je me suis dit, bon, ça marche, bah, tant mieux. Et puis après, c'est vrai que ça m'a stimulé surtout à faire des bonnes femmes.
C'est ce qui vous a personnalisé par rapport aux autres one-man show?
Certainement, certainement que le fait de jouer des femmes, d'abord je suis le seul à le faire, malgré toutes les comparaisons qu'on peut faire, soit avec Zouk, soit avec d'autres, qui sont des comparaisons qui ne sont pas forcément justifiées, parce que bon, Zouk, elle joue certainement mieux les femmes que moi, puisque c'est une femme. Mais en revanche, elle joue pas les femmes comme moi, vu que je suis un homme. Ouais. Donc, il y a une différence là, parce que moi, en fait, le but que je me suis fixé, c'était de jouer ces dames, parce que ça m'intéressait de le faire. C'est-à-dire que ça m'intéresse de jouer des femmes, puis après, pouf, je changeais, de devenir un bonhomme à côté. C'est-à-dire que c'est la transformation, c'est ça qui est intéressant, spectaculaire. Et puis c'est les gens, à la fin, quand ils me disent « Ah, c'est vous qui jouez ça, je vous aurais pas reconnu », ben ça me fait plaisir, en fait.
Ouais. « Oh, je suis morte !» J'ai fait 2 cuites de blanc, je suis morte. Ah, bonjour madame, c'est pour bientôt ce petit. Mais si t'avais vu cette chambre à lessive. Mais il y en a qui sont vraiment des cochons. Tu peux pas savoir. Vous savez, vous pouvez pas savoir. Quand je vois ça, vous pouvez pas savoir, vous savez. Tu sais? Ah, ben, je savais pas que tu savais, tu sais. Vous savez? Alors, vous savez ce que c'est? Ouais, ben, je savais. Oh, tu sais. Sait-on jamais? Je sais qu'elle sait, vous savez. Mais si vous saviez, sans savon, elle l'avait, vous savez.
Je me cache derrière mes personnages, uh-huh. C'est sûr. Oui, c'est-à-dire, c'est pas quitter sa personnalité, mais c'est de se mettre à la place d'un autre. Mmh. Mais il y a quand même la personnalité derrière. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que, suivant les soirs, comme ça, où je m'amuse plus, où je m'amuse moins, où il y a une complicité plus forte avec le public, donc la personnalité est là, mais simplement, il y a une distance. C'est-à-dire que moi, je m'investis pas complètement. Je m'investis, si on veut, oui, physiquement, avec la voix et tout. Mais j'entends, psychiquement, j'ai pas un investissement sur le personnage, comme le fait Zouk, par exemple, qui a déjà une recherche plus approfondie du personnage, vu qu'elle traite des personnages qui l'ont touché de près, de par sa vie, etc.
Voilà. Ah, monsieur Sylvain, venez voir. Je voulais vous demander, on doit rester dans ce home combien de temps? 10 jours? Mais taisez-vous. 10 jours à cause de vous, hein? Moi, je vous l'avais bien dit, boire ou conduire. Allez choisir. Non, bon, bah, allez faire ces 10 jours. Vous en faites pas, allez faire. Comme dit le proverbe, Sylvain est tiré, il faut le boire.
Il y a, on se rend compte dans ce spectacle, une espèce d'histoire d'amour entre Madame Pahu et François Sylvain.
Oui, c'est sûr, bon, ça dure depuis un moment. C'est une histoire d'amour là qui va pas très bien, en fait, parce que, bon, on a des petits conflits. Hein, comme elle n'est pas très contente d'être dans les MS, mais moi, j'y suis par obligation, bien sûr, comme je dois faire ces 10 jours pour mon permis de conduire. Moi, quand je suis arrivé, on me reconnaît, puis pas elle, donc à partir de là, on a nos petits différends, mais bon.
Ça, c'est le côté scénario, parce que c'est vrai que ça se passe un petit peu comme dans un scénario, dans ce spectacle. Y a une part de vrai, c'est-à-dire que tu as vraiment passé 10 jours à travailler comme ça dans un home. C'est un home qui s'appelait la Rosa Blanche, c'est ça?
Ça s'appelait la Rosa Vert. C'est la Rosa Vert à Lausanne, que j'ai rebaptisé la Rosa Blanche. Enfin, je vais chercher midi à 14h. Mais tous les personnages sont authentiques, tout ce que je raconte c'est authentique, c'est vraiment du vécu, hein. Tout ce que j'ai observé, même les choses les plus absurdes de dentier, de mélange de tisane et de poté, c'est des choses qu'on m'a racontées, que j'ai observées, etc. Il se passe des choses incroyables dans ces MS. Oui. Et alors j'ai mis là-dedans tous les personnages que j'ai rencontrés. Moi, j'avais bien sûr affaire particulièrement avec le personnel, puisque je travaillais au jardin l'après-midi, à la cuisine le matin, etc. Donc tous les personnages sont vrais, c'est tout le staff, une partie en fait, et le seul personnage qui est fictif, c'est Madame Pahu.
Allô le BE, le thé et la tisane, vous prenez vos pompes, vous me tutez quand c'est fait. Comment il n'y a plus de pas? Ah bon, attendez une seconde. Allô le B2, vous pointez à gauche, vous avez pris les pots du B1. Ah bon. Allô le B1, je me suis trompé, vous prenez les pots du B2. Parce que oui, ils sont sucrés. Ah bon, les diabétiques sont B1. Ah, vous remettez les pots du B2 pour le B2, puis vous me tutez quand c'est fait.
Ici, Madame Pahu sort un petit peu du spectacle. Elle se permet des choses que l'auteur n'a jamais imaginées, peut-être, et qu'il n'a en tout cas jamais permises. Il y a, parfois, il paraît que ça existe souvent, il y a quand même toujours ce décalage entre l'auteur et l'acteur.
Oui, ah oui, un dédoublement bon, qui doit être intéressant pour un psychanalyste. C'est vrai que c'est elle, c'est moi, moi, c'est elle. C'est clair que c'est intéressant comme problème. Et elle, vraiment, bon, elle prend ses initiatives, elle sort du scénario, effectivement, mais tout ce qu'elle fait, les choses les plus absurdes sont des choses authentiques. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, bon, moi, je dérive un peu sur des choses absurdes aussi, mais qui sont évidemment des choses complètement délirantes comme ça, mais qui vont dans le contexte. C'est vrai que, de toute façon, on sait qui est qui dans cette histoire. Mmh. Mais le principal, c'est de savoir que, bon, moi, je joue elle joue tous les autres personnages, mais en fait, c'est aussi moi qui joue elle, puisque elle, c'est moi, etc.
Oh, non, tu me connais! Je suis pas superstitieuse. Ça porte malheur. C'est ce que j'avais dit à mon mari la première fois que je l'ai vu. Je venais de pousser la porte de l'écurie qui avait un fer à cheval cloué dans le milieu. Et la première fois que j'ai mis le pied dans sa maison, c'était dans une crotte de vache, juste au milieu de l'entrée. J'ai glissé, je suis tombée assise dedans. et j'entends une voix venir du fond de l'étable, ça porte bonheur. Et je ne voyais personne qu'une alignée de vaches avec leur nom inscrit sur des ardoises au-dessus de leur tête. Je me suis levée. Je me suis avancée. Et tout à coup, je l'ai vue. La tête appuyée contre Denise. Une belle laitière qu'il était en train de traire, assis sur son bas de cul. Je ne suis pas superstitieuse. Ça porte malheur.
Madame Pahus, c'est une compilation de ma mère, de gens que je connais, de femmes comme ça que j'ai croisées dans mon bled quand j'étais jeune. Mais le personnage réel tel qu'il est n'existe pas.
Donc le personnage réel est celui que l'on voit sur scène.
Voilà, il a été fabriqué à partir de petits morceaux comme ça que j'ai observés à gauche et à droite. Bon, là, c'est vrai que ça nous ouvre des possibilités énormes, parce que du moment qu'il y a ce rapport auteur, Madame Pahus, là, après, on peut se permettre de faire des choses complètement délirantes.
Autrement, ça va? Mais est-ce que tu respires bien avec un poumon? Je suis soufflée. Dans cette poche, c'est quoi? Ah, tu peux pas aller au cabinet, forcément. Tu manges bien? Tu manges bien? C'est cette bouteille. Et celle-là, c'est quoi? On dirait du rouge. T'as droit à ton petit coup, hein, ça va? Hein? Ah, ça te fait mal quand tu ris. Autrement, ça va? Je peux? Oh, ben elle est toute petite, cette cicatrice. Ah, elle va juste dans le dos. Cette tache bleue sur le ventre. Oh, mais c'est le choc opératoire. Tu sais, Madame Pahus, avec le choc, elle avait perdu toutes ses dents. Toi aussi? Ah, mais c'est normal. Non, non, c'est normal. Non, c'est normal. D'ailleurs, dis-toi bien, il vaut mieux avoir des fausses bonnes que des vraies mauvaises. Autrement, ça va.
Est-ce qu'au précédent spectacle, Madame Pahus avait un petit peu manqué dans le spectacle de François Sylvain et ses hommes, puisque tu as eu le besoin de la faire revenir et d'en faire vraiment la vedette du spectacle?
Bah, c'est un peu une sollicitation du public, parce que beaucoup de gens me disent « Oh, Madame Pahus, on la voit plus. » C'est vrai, c'est beaucoup de gens. Moi, j'ai voulu faire un break avec elle. Bon, c'est pour ça que j'ai fait le spectacle des hommes avant. Et puis après, j'ai dit « Il faut que je la fasse revenir, mais dans un contexte, alors une jolie histoire, etc. » Et puis, il a fallu que les circonstances de la vie fassent que je me retrouve dans ce TMS. Et c'est tout à fait par hasard où je me suis retrouvé. Donc, j'ai dit « Ça, c'est l'idéal, ça, c'est parfait. »
Tu es un petit peu prisonnier du personnage et un petit peu victime de ce succès?
Non, pas du tout, j'en fais ce que je veux. Je domine tout à fait la situation.
Madame Pêche, Madame Pêche. Bonjour. Bonjour, Madame Pêche. Mais qu'est-ce que vous dansez avec cette robe? Ah, oh, c'est une nouvelle danse. Ah, oh, voilà. Il y a des choses, je peux plus danser depuis mon opération. Ça peut aller, mais faut que je fasse attention. Une fois, il y a un cavalier, il m'a marché sur les pieds.
je relisais aujourd'hui que tu es entré, tu as mis le premier pied dans la scène aux environs de 1970. Ça fait quand même un sacré bout de temps. Tu te souviens d'ailleurs de ce premier pas que tu as mis sur scène ?
La première pièce que j'ai dû jouer, je m'en souviens vaguement, mais c'est une pièce qu'on avait fait au Lapin Vert, et qui s'appelait une pièce de copie qui s'appelait Vaperon. Donc c'était d'actualité. On en fait ce film d'Evita, c'est une pièce de copie sur Eva Perón. Et là on jouait dans des costumes en plastique, moi je faisais un ministre et tout. C'est le premier souvenir que j'ai de... Mais j'ai dû faire de la figuration intelligente avant, déjà dans un spectacle classique de Jean Ravard, fastueux, un truc, un Goldoni. Et là, je faisais vraiment une silhouette au lointain. Là. C'est vraiment...
Le fait d'être acteur et de faire la scène, c'était un rêve d'enfant. Tu avais toujours envie de faire ça, ou bien est-ce que ça t'est tombé dessus un petit peu par hasard ?
Le hasard. Oui, tout à fait. Le hasard. Non, j'ai pas eu d'envie particulière depuis petit. C'est venu tout par hasard à 17 ans, 18 ans.
Ah oui. Mm-hmm. Parce que tes rêves d'enfance, c'était quoi ?
Ah, moi, j'avais envie, comme tous les goûts, j'avais envie d'être pilote d'avion, ou agent de police, ou je sais pas.
Agent de police, non, même.
J'entends, j'avais plutôt des secrétaires, mais j'avais pas du tout d'envie artistique. Mm-hmm. Pas du tout.
Vous vous souvenez, la première fois, vous m'avez couché sur le papier. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Vous m'aviez invité à danser. Et à ce moment magique, on était seul au monde, on oubliait tout ce qui nous entourait, le temps, le monde, la transpiration. On humait, on buvait ce bonheur d'un instant si fragile. Le bonheur est chose légère, hein, on croit le saisir et s'enfuir. Et après, vous aviez rompu le silence.
Non, c'était pas moi.
Oh, ben si, c'était vous.
Ah bon, vous croyez? Ah ben, je pense bien. Ah oui, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah oui, moi c'est François Sylvan, je suis comédien au chômage, one-man chômeur.
Moi c'est Denise Pahut, ménagère imaginaire.
Les archives du rire. 1999, la fête de la vigneronne. Dans ce spectacle, François Sylvan évoque le vin, mais pas seulement le vin, aussi et peut-être surtout ces familles de viticulteurs, des familles où il se passe tant de choses, des choses cachées, mais que François Sylvan met en lumière avec, bien sûr, une grande part de caricature.
Je suis bien contente. On a donné la vigne au petit. Désormais, la vigne est à notre fils, Jean-Claude. Et mon mari et moi, on a l'usufruit de la maison jusqu'à notre mort. Et ma belle-fille peut rien contre. C'est sûr, même si mon fils Jean-Claude meurt, elle hérite de lui à moitié, mais pas de notre jouissance. La jouissance, elle est pour mon mari et moi. On jouit les deux. Elle, ça la regarde pas. Elle n'est pas de la même souche. Vous comprenez?
C'est une famille de vignerons de Chardonne qui, chez qui j'achète du vin, d'ailleurs, que je connais depuis pas mal de temps. Et puis qui m'ont un peu, évidemment, inspiré cette histoire, enfin, où j'ai un peu puisé dans leurs habitudes, leur vie quotidienne. Et il y a des choses qui, évidemment, sont des imitations de leur vie à eux, quoi. Que ce soit elle, que ce soit son mari, que ce soit les enfants, etc. Bien sûr, moi, de toute façon, c'est ce que je fais toujours. C'est l'observation des gens qui m'environnent, qui sont dans ma vie. C'est autobiographique en grande partie, plus ma vision à moi, ma déformation à moi, et puis les jeux de mots et les autres choses que je peux y mettre dedans. Mais le point de départ, c'est vrai,
écoutez,
que c'est une famille
de vignerons. Écoutez, si j'ai bien tout compris, le notaire, au cas du décès de notre fils, ma belle-fille hérite de la moitié à Jean-Claude et mes petites filles la moitié chacune. Elle hérite pas tout. Pour ça, je suis bien contente. Ben, c'est toute une question de souche, vous comprenez. Tout est dans la souche. Par exemple, si votre père et votre mère meurent dans un accident de voiture, votre père décède sur place, votre mère, enceinte de vous, meurt pendant la césarienne, mais vous, vous avez pu être sobé, et bien vous héritez la totalité.
C'est vrai que depuis quelque temps, je nage dans le pinard. Et déjà avec le spectacle précédent, qui était une conséquence de ça, d'ailleurs, et je voulais faire une suite plus ou moins illogique à STMS en faisant un hommage au pinard, un hommage au vin, une ode au vin. Et l'opportunité de la Fée des Vignerons étant là, j'ai dit, je vais en profiter, et voilà. Et c'est un scénario que j'ai fait d'ailleurs avant la fête, qui a été écrit en 98, enfin, que j'ai fini en janvier 99. Et alors, voilà, c'est une suite plus ou moins logique dans ma vie. Je voulais faire cet hommage au vin, puis voilà.
Une silhouette entre les lignes, elle a l'air d'un épouvantail. Une ombre courbée dans la vigne, où es-tu, vigneronne? Où es-tu, vigneronne?
Les archives du rire.
La communication. La communication. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire. Madame Pahu, vous n'avez rien à dire? Mais pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, moi non plus, je n'ai rien à vous dire de plus. Ça, la soif de communiquer, là, ça ne se commande pas. Oui.
Voici Noël.com, 2001, François Sylvan évoque ici la communication ou la non-communication, et les familles qui se dispersent.
Le sujet, en fait, c'était bien sûr de traiter avec ces produits de communication, c'est-à-dire aussi bien le téléphone que l'ordinateur, qu'Internet, etc., et autres fax et e-mails, etc., qui nous envahissent et qui sont utiles quelque part, mais c'est un moyen de communication qu'on utilise, mais sans pour autant qu'on facilite la communication entre les gens. L'incommunicabilité j'entends, entre les gens, la communication directe existe de moins en moins, finalement.
Allô, loulou? C'est maman. Comment ça va? Dis donc, loulou, je t'appelle pour le repas de Noël. Vous êtes libre le 24? Vous allez skier? À partir du 15? Mais jusqu'au 15 décembre, ça pourrait jouer? Très bien, écoute, je regarde encore avec les autres. On se rappelle, et puis je te redis. Clic. Allô, Jean-Claude? C'est maman. Oh, zut, ce répondeur.
Oui, bonjour, vous êtes bien chez Jean-Claude et Jacqueline Pahu. Merci de laisser un message après le signal sonore.
Oui, Jean-Claude, c'est maman. Alors, bip! Oui, Jean-Claude, c'est maman. Pourrais-tu me rappeler, toi ou Jacqueline, c'est pour le repas de Noël? J'aimerais savoir si vous auriez une date de libre avant le 15, parce que Loulou et Fifi, ils vont se quiller. Ah, puis Jean-Claude, dis à Jacqueline qu'elle demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent comme cadeau. On se rappelle, on se redit, gros bec, maman.
Le point de départ de cette histoire, c'est la communication, bien sûr, mais c'est surtout parce que tous les personnages de cette pièce me sont connus, puisque c'est des gens qui sont soit de ma famille ou des gens que j'ai rencontrés. Et on constate que, par exemple, quand on a une réunion de Noël, avec des gens qu'on voit qu'à Noël, qu'à des périodes aux enterrements, au mariage, et puis machin, et finalement, on n'a pas grand-chose à se dire. Où on dit des banalités consternantes, etc. Alors, l'idée, c'était de faire quelque chose. Et, bon, et puis, c'était dans un lieu de communication par excellence, c'est-à-dire le bistrot. Mm-hmm. De faire ça dans un bistrot. Parce qu'en principe, c'est où les gens se rencontrent, etc. Bon. Et alors, j'y ai mis toutes les gens que je connais, plus mes personnages récurrents qui font partie de la troupe, donc les Brèche-Bulles et compagnie.
Dis donc, Yves, t'appelles pour le repas de Noël. Vous êtes libre en septembre? Hein? L'accouchement, c'est prévu pour quand? À mi-septembre, hein, voilà. Oui, puis juillet-août, vous êtes en Espagne? Oui. En juin, ça pourrait jouer, alors? Non, écoute, c'est pas le temps. Maintenant, écoute, je vais encore garder avec les autres. On se rappelle, et puis je te dis.
Je bouge trop.
C'est la fin des archives du rire pour aujourd'hui avec plusieurs interviews de François Sylvan entre 1986 au Locle et 2002. Il y a eu donc plusieurs rencontres avec François Sylvan, le Locle, Neuchâtel, Morges et Fribourg entre autres. L'émission, vous la retrouvez en tout temps sur notre site et sur la page des Archives du Rire, avec quelques éléments en images, bien sûr. Au revoir et à bientôt.